À l'occasion de la thématique 50 ans d'indépendance africaine qui se déroule toute cette semaine sur les ondes de la grenouille, nous vous proposons d'écouter pendant la petite heure qui suit une interview de Boubacar Boris Diop, écrivain. Une interview réalisée par Emmanuel Riondé, journaliste spécialiste de l'Afrique, coordinateur des pages internationales du mensuel Regard. Une interview de Boubacar Boris Diop qui a été enregistrée dans le studio de la grenouille les 27 avril et 3 mai dernier.
Boubacar Boris Diop, vous êtes né en 1946 à Dakar au Sénégal, romancier, dramaturge, scénariste. Vous avez également été dans votre pays à la tête comme directeur de la publication du grand quotidien dakarois Le Matin. Considéré comme l'un des plus importants écrivains africains actuels, vous avez écrit plus d'une dizaine d'ouvrages et contribué à d'autres collectifs. Auteur de romans, de fictions, vous êtes aussi un essayiste et un homme très engagé dans le débat politique qui se noue en permanence sur l'actualité et l'avenir du continent africain. Participant au projet Rwanda Écrire par devoir de mémoire, vous avez participé en 1998 à un voyage d'écrivains africains au Rwanda, 4 ans après le génocide. Un voyage qui vous a marqué, dont vous avez tiré un ouvrage, Mourambi, le livre des ossements, paru chez Stock en 2000. Vous avez également co-signé en 2005 avec François-Xavier Verschave et Odile Taubner de l'association Survie, l'essai Négrophobie, en réponse à l'ouvrage à succès du journaliste Stephen Smith, Négrologie. On peut aussi citer L'Afrique au-delà du miroir, recueil d'articles et de conférences publié en 2007 aux éditions Philippe Ray, un ouvrage que par ailleurs je conseille personnellement aux auditeurs de Radio Grenouille. Votre actualité éditoriale, c'est la réédition en 2010, également chez Philippe Ray, de votre roman Le Cavalier et son ombre, qui avait été écrit une première fois en 1997, mais surtout la publication de votre traduction en français du roman Doumi Golo, je ne sais pas si je le prononce bien.
Doumi Golo, c'est parfait.
Voilà. Que vous aviez écrit en Wolof en 2003 et qui est donc paru en 2009, toujours chez Philippe Ray, sous le titre « Les Petits de Laguenon », une traduction menée par vos propres soins. Alors, je précise tout de suite sur ça que sur cette question de vos rapports à la langue, à l'écriture, au travail littéraire, Radio Grenouille a prévu de vous donner la parole au cours d'une autre entretien qui sera mené par un confrère. Donc, sur ces questions-là, je n'en dis pas plus. Pour ma part, sans ignorer bien sûr que ces deux versants de votre travail sont étroitement liés, c'est plutôt le Boubacar Boris Diop, intellectuel engagé, que je souhaite interroger aujourd'hui. Un intellectuel né à Dakar, on l'a dit, vivant aujourd'hui à Tunis, et qui se trouve, au moment où je vous parle, en résidence pour quelques mois en Afrique du Sud, où vous êtes professeur invité à l'université de Johannesburg. Un intellectuel africain, donc pleinement africain, qui arpente son continent. Boubacar Boris Diop, est-ce que j'ai été complet? Est-ce que j'ai oublié des éléments que vous souhaiteriez porter à la connaissance des auditeurs?
Ben oui, hein, je suis journaliste, écrivain, oui, auteur de fiction. J'essaie d'intervenir sur les questions d'intérêt public. La démarche n'est pas la même. Auteur de fiction, j'essaie de d'écrire des romans, surtout des romans sans concession, sans souci, parfois d'ailleurs de la compréhension immédiate, mais en tant que journaliste au fond, hein, intellectuel, en tant qu'intervenant public, oui, là, mon souci c'est vraiment de coller au plus près au réel et de dire des choses très simples avec le maximum de clarté.
Alors on va commencer l'entretien tout de suite. Comme vous le savez, on va parler essentiellement de ce cinquantenaire des indépendances de 1960. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes sénégalais, vous vivez à Tunis et vous vous trouvez actuellement en Afrique du Sud. Comme vous le savez aussi, la France s'apprête à célébrer le cinquantenaire des indépendances de 1960. On reviendra un peu plus tard sur le rôle de la France dans cette histoire. Mais tout d'abord, est-ce que vous qui connaissez donc bien ce continent et qui vous trouvez actuellement en Afrique du Sud, qui elle n'a pas eu son indépendance en 1960 mais plutôt en 1994, est-ce que vous pouvez nous dire comment est perçu le moment indépendance dans ces pays? Est-ce que c'est considéré aujourd'hui et partout comme un moment structurant, référent dans l'histoire des pays?
Mais pas du tout. Alors, permettez-moi de dire, hein, par une intéressante coïncidence, aujourd'hui, en Afrique du Sud, mardi 27 avril, c'est férié, parce que c'est ce qu'ils appellent le Freedom Day. C'est la première fois qu'il y a eu des élections démocratiques en Afrique du Sud, et tous les 27 avril, eh bien, on célèbre ça. Non. Je pense que en Afrique du Sud, comme bon ben je dirais au Mozambique et dans d'autres pays africains, on n'est même pas au courant de cet événement. Oui, on sait que un groupe de pays a eu son indépendance, mais en réalité, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette affaire de célébration du cinquantenaire, qui met tant d'institutions en émoi, c'est surtout une affaire de famille entre la France et son ex-empire colonial. Et je dirais même entre la France et ce qu'avant on appelait l'AOF, Afrique équatoriale française, et l'Afrique occidentale française. Donc, si ça a été important d'une certaine façon pour le continent, ce tournant-là, juste avant la naissance de l'EUA d'ailleurs, ce serait très exagéré de penser que, voilà, que pour le reste du continent, ça a une quelconque pertinence. Non, même les pays anglophones, bon, je dirais, pour utiliser une expression assez familière, ils sont tamponnent. C'est, le Ghana a été le premier à avoir eu l'indépendance, ensuite, bon, d'autres pays ont suivi. Mais ce que je vous fais remarquer, c'est il y a eu un empire britannique, il y a eu un empire colonial français, eh bien, le traitement par rapport à ces indépendances n'est pas le même. À Londres, on n'est pas tout feu tout flamme en disant oui, on va célébrer les indépendances du Ghana, du Nigeria et de je ne sais quel pays. Mais pas du tout.
Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, plus tard, dans une ou deux questions sur le rôle que s'octroie la France, et donc éventuellement on pourra parler des anciens empires coloniaux qui étaient la Grande-Bretagne et le Portugal. Mais avant tout, je voudrais vous faire parler sur la perception qu'en ont les Africains eux-mêmes. Donc là, vous venez de nous expliquer que c'était pas perçu par le reste du continent, c'est-à-dire celui qui n'avait pas été colonisé par les Français, comme un moment important. Venons-en donc au Sénégal, puisque vous êtes vous-même sénégalais. On sait que, par exemple, des pays comme les États-Unis, le Mexique, les dates d'indépendance donnent lieu à des fêtes importantes qui sont aussi des moments où qui fédèrent l'ensemble de la population. Est-ce que ça, c'est malgré tout ce qu'on dira plus tard, est-ce que vous avez déjà un peu dit, le cas aussi dans un pays comme le Sénégal? Est-ce que pour la population, le cinquantenaire qui arrive est perçu comme un moment important qu'il convient de célébrer dignement? Ou pas du tout?
Écoutez, j'ai l'habitude de dire en plaisantant depuis quelques mois, pour les Sénégalais, il n'y a pas de différence entre le 49e et le 50e anniversaire. Ça, c'est très, très impressionnant. À un moment donné, le pays a voulu donner de l'éclat à ce 50e anniversaire. Le pays, non, le gouvernement. Et je crois qu'ils attendaient de l'argent de la France. Vous voyez, c'est très significatif, ça, de l'ancien colonisateur. Cet argent n'est pas venu. Et bon, voilà, il ne s'est rien passé d'exceptionnel. J'imagine que pour le Burkina, le Mali, ça a été à peu près pareil.
Est-ce à dire qu'au niveau des populations, on considère qu'il n'y a pas vraiment quelque chose d'important à fêter?
Oui, encore que ce ne serait pas juste de dire que, ça je ne suis pas d'accord en revanche, de dire qu'il n'y a pas eu de changement, que oui, on est indépendant, mais que ça ne veut rien dire. Non, je pense que la première génération de nos hommes politiques, ça a été quand même des personnes, des leaders plutôt, voilà, ayant une vision. Ils ont posé les jalons de quelque chose. Bien sûr, cette indépendance a été récupérée. Vous savez, un pays comme le Gabon, etc., faut quand même pas rigoler. Les Omba ne voulaient même pas de l'indépendance. La Côte d'Ivoire, je parle là du phénomène de la France-Afrique. Mais malgré tout, l'un dans l'autre, c'est une mutation intéressante, importante. Ce que nous en avons fait, c'est peut-être ça le problème. Et ce que je regrette, moi, ce n'est pas le fait qu'en France, de manière assez ironique, hein, quelque part, on se met à célébrer cette indépendance à grands frais, mais c'est juste le fait que des pays comme le Sénégal, le Burkina, le Mali, la Guinée n'aient pas eu, sous les auspices de l'OUIA, cette petite idée de se dire, écoutez les gars, nous avons été ensemble à l'indépendance il y a 50 ans, ce n'était pas les conditions idéales, mais 50 ans après, nous discutons. Qu'est-ce que nous en avons fait? Qu'est-ce que ça a représenté? Est-ce qu'on a bien géré cette affaire, etc.? Non. Chacun a défilé sur la place de l'indépendance, on a cultivé les drapeaux. Et puis tout le monde attend le grand événement. Le grand événement, ce sera le 14 juillet.
Alors justement, c'est ce que j'allais y venir. On reviendra après sur ce que vous venez de dire parce que ça m'intéresse beaucoup sur l'incapacité des pays africains à se rassembler ou la non-volonté des pays africains à faire un point collectif sur ce moment d'histoire. Mais là, on va venir sur la partie française. Donc le président français a décrété, comme vous le savez, 2010, année de l'Afrique. Il y aura donc en France une série d'événements organisés pour fêter le cinquantenaire des indépendances de 60. Les plus importants de ces événements, vous ne l'ignorez pas non plus, sont le sommet France-Afrique qui se tiendra à Nice fin mai, 31 mai, 1er juin prochain. Et, vous venez d'en parler, l'invitation faite aux 14 chefs d'État des anciens pays africains colonisés par la France et indépendants en 1960. L'invitation faite à ces chefs d'État donc de se rendre le 13 juillet et le 14 juillet à Paris pour la fête nationale française. Voilà, alors deux questions autour de ça. La première, comment vivez-vous, vous qui êtes donc, je le redis, un intellectuel engagé et attentif à l'évolution de l'histoire sur le continent africain, le fait que la France, qui ces dernières années avait trouvé le moyen de célébrer, de consacrer des années comme ça, une fois à l'Inde, une autre fois au Brésil, choisisse cette année de le consacrer à tout un continent. C'est-à-dire que pour avoir la même considération que l'Inde ou le Brésil, on a l'impression que l'Afrique, elle doit se présenter en bloc. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous? Et au-delà de ça, quel sentiment vous inspire cette année de l'Afrique, sachant que Nicolas Sarkozy a dit qu'il souhaitait, je le cite, à travers ces événements, confirmer l'évolution des relations entre la France et l'Afrique subsaharienne, qui doivent rester privilégiées, tout en étant renouvelées, équilibrées et transparentes. Alors première question, que vous inspire le fait que ce soit l'Afrique en bloc qui soit célébrée? Et que pensez-vous de cette volonté élyséenne affichée de renouveler la relation franco-africaine?
Oui, pour ce qui est de l'Afrique en bloc, je demande à voir. Hein, la France, quand il s'agit de notre continent, a toujours les yeux plus gros que le ventre, si j'ose dire, parce que lorsque elle a affaire à son ancien empire colonial, pour souvenir l'illusion de la grandeur, elle essaie de croire qu'elle est en train de parler à l'ensemble du continent. C'est faux. Mais même le fait de prendre un bloc de pays, hein, allant du Congo-Brazza au Sénégal, tu mets dedans le Tchad, etc., la Centrafrique, le Sénégal, et puis, voilà, moi, chef d'État français, je suis votre interlocuteur à vous tous. Non, je pense que cela est méprisant, mais ce n'est pas la première fois. Les chefs d'État africains se sont allés tous en Chine. Malgré la taille de la Chine, je pense qu'au niveau symbolique, on ne doit pas le faire. Ils ont fait pareil avec l'Iran, la rencontre Iran-Afrique, etc. Je pense que ça en dit long sur, finalement, l'opinion que nos leaders politiques ont de la souveraineté de leur propre pays et du respect, quoi, même formel, qu'ils sont en droit d'exiger. Ben, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'être respectés, et c'est dommage pour eux, mais c'est surtout dommage pour nous.
Et alors, deuxième question, donc je la répète, qu'est-ce que vous croyez à la volonté affichée par le président français de renouveler la relation franco-africaine?
Mais ça, c'est la langue de bois. Je pense que, en réalité, maintenant, quand on parle de la France-Afrique, il faut bien savoir que la crise aidant, la prise de conscience des jeunes générations joue un rôle, et puis l'ouverture politique à l'échelle planétaire, ouvrant les yeux de tout le monde, la France n'a plus, je pense, les moyens d'exercer une certaine emprise. Elle comprend très bien que la France-Afrique de papa, c'est fini. Comme elle a compris dans les années 60 qu'on ne peut pas avoir perdu en Indochine et en Algérie et s'obstiner à ne pas ouvrir le système. Et on a donné ces indépendances un peu piégées, pour dire le moins. Et puis, à la fin de la guerre froide, 89, 91, c'est le mur de Berlin tombe. Le mécontentement populaire avec les politiques d'ajustement structurel est tellement grand, c'est le discours de la boule. C'est une évolution. Là aussi, on adapte la France-Afrique à un nouveau contexte. Eh bien, Sarkozy, je pense que le discours de Dakar l'a beaucoup aidé à percevoir le changement dans les mentalités. Il dit, ça ne peut pas continuer comme avant. Sauf que maintenant, il y a une France-Afrique utile. Le Congo, le Tchad, etc. Ça, c'est des points sur lesquels je pense pas que la France ait l'intention de varier dans iota, de négocier. Mais pour le reste, on va, les formes vont changer. Oui, il est quand même allé à Kigali s'incliner devant les morts du Rwanda, morts sur lesquels la responsabilité de la France est tellement écrasante. Dans beaucoup de cas, oui.
Donc pour vous, ce qu'on appelle communément la France-Afrique, ce système mis en place au lendemain des indépendances, en tout cas la France-Afrique de papa, comme vous dites, est plutôt sur le déclin, même s'il en reste, j'imagine que vous serez d'accord, de belles traces à l'œuvre. Donc ce qui est certain, c'est qu'on voit aussi depuis quelques années, et c'était un peu la question suivante que je voulais vous poser, arriver sur le continent des acteurs qui n'y étaient pas de façon significative, en tout cas il y a 50 ans, et notamment, bien sûr, je pense aux Asiatiques, et en particulier aux Chinois. Il y a un bouquin qui vient de sortir en France aussi, qui fait l'état des lieux sur un peu la nouvelle géopolitique du trafic de drogue, et qui met l'Afrique occidentale au centre de cette nouvelle géopolitique. Donc des nouveaux acteurs, de nouveaux enjeux. Est-ce que ça va pas un peu contribuer à redistribuer les cartes sur le continent, ça ? Y compris les cartes des responsabilités.
Oui, vous savez, je crois qu'on parle aujourd'hui de la Chine-Afrique. Et moi, ce débat, mais vraiment, c'est le sujet favori, quoi, dans les dîners en ville, quoi. Vous les Africains, vous allez nous laisser tomber pour les Chinois, mais attention, les Chinois, ils sont tellement méchants. Et moi, ma réponse est toujours la suivante, je refuse de prendre position entre la Chine et l'Occident. Je veux dire, est-ce que notre vocation, c'est vraiment d'avoir à dire aux Occidentaux, non, ne vous en faites pas, nous restons avec vous, ou à dire aux Chinois, ils nous ont tellement fait baver les Occidentaux, maintenant on vient avec vous, vous ne vous occupez pas des droits de l'homme, et puis vous investissez dans les infrastructures, on a besoin d'électricité, etc. C'est-à-dire que, premièrement, nous n'avons pas vocation à être juste dépendant, à changer de maître ou à rester avec le maître d'hier. Je ne veux pas entrer dans cette logique. Et la deuxième chose, ce n'est pas l'Afrique globale face à la Chine en tant qu'entité globale. C'est à chaque pays africain. Mais selon ses intérêts, selon vraiment l'idée qu'il se fait de son développement, etc., de négocier avec l'Australie, la Chine, le Japon, l'Amérique, etc. Ce sont des questions que dans l'histoire de l'humanité, les pays ont résolues individuellement, mais penser que vraiment le destin de l'Afrique, c'est que tous les Africains doivent tous traiter avec la Chine, ou bien tous tourner le dos à la Chine et traiter avec l'Occident, je ne comprends pas cette logique. Je sens que c'est profondément absurde. Le débat est biaisé. Et je sais très bien qu'en Occident, maintenant, vraiment, le gros truc est ça. Oh, la Chine-Afrique, les Chinois arrivent. En fait, c'est la variante moderne du... vous vous souvenez peut-être le fameux péril jaune. Les Chinois vont submerger le monde. Ils sont tellement nombreux, ces gens-là. Ces petits hommes jaunes, etc. Il y a un peu de racisme dedans, d'ailleurs. Non. Pour moi, chaque pays, chaque gouvernement se réunit. Voilà. Notre intérêt, c'est quoi? À moyen, à long terme. On négocie avec qui? Et négocier, ça veut dire négocier d'État à État. Même si les forces ne sont pas les mêmes, c'est négocier d'État à État en disant, voilà, notre indépendance, voilà la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Et donc, oui, ça s'entrecroise, etc. Mais on n'est pas couché, voilà. On n'est pas obligé d'être là, d'attendre que je ne sais qui vienne nous pénétrer. Voilà, c'est tout.
Vous écoutez La Grenouille, c'est une interview de Boubacar Boris Diop, écrivain. Une interview menée par Emmanuel Oriandé, journaliste, spécialiste de l'Afrique, à l'occasion de la thématique 50 ans d'indépendance africaine, thématique qui se déroule toute cette semaine sur les ondes de La Grenouille. On retrouve Boubacar Boris Diop et Emmanuel Oriandé après cette pause musicale. Sunjata Keita, Ambifora, Mandisara Kaminani. Sunjata, Sunjata Keita, Ambefora, Mande Sarakaminani, Manding Kalusawani, Dolukwama, Suholonjata, Dolukwama, Manganjata, Dolukwama, Suho Simbo, Dolukwama, Mandenjara. Sunjata Ambifora, nous te remercions pour la victoire de 1235 à Kirina. Sunjata Ambifora, ton ancêtre s'appelait Bilal Boulama. Bilal Boulama, suivi de la Wallo. La Wallo a été suivi de la Talkalabi. La Talkalabi, Damal Kalabi. Damal Kalabi, Laylatul Kalabi, Laylatul Kalabi, Kalabi Bomba, Kalabi Bomba, Mamadou Kani, Mamadou Kani, suivi de Tonyon Kele, Tonyon Kele, Balinene, Balinene, suivi de Belo, Belo, suivi de Belo Bakon, Belo Bakon, suivi de Mangan Konfata, Mangan Konfata, Sunjata Keita. Sunjata Keita, Ambefora. Sunjata Keita, Ambefora. Mande kele folo keni, tabu, nabu. Kana kele flananke ni ani kele savananke ni negaboria kele naninanke ni kambinya kele lurunanke ni kirina sebalon werela Sunjata Keita Allahu Akbar Sunjata Keita Ambefora Sunjata Keita Ambefora Mamisara kamilani Ibe me cheto tunye Bilal Boulama Bilal Boulama Tadene tume lawalo Lawalo tadene tunye Latal Kalabi Latal Kalabi Damal Kalabi Damal Kalabi Laylatul Kalabi Laylatul Kalabi Kalabi Bomba Kalabi Bomba Mamadou Kane
Mamadou Kani, tadin tout tonyon kele, tonyon kele, tadin tout nye balinene ye, balinene ou tadin tout nye belo, belo, tadin tout nye belo bakon, belo bakon, tadin tout nye mangan konfata, sundiata keita, mande saraka milani, mande kadou sawani, aibo, aibo, sundiata barana. Aibo, aibo, sunjata nana. Aibo, aibo, sunjata barana. Aibo, aibo, mandinjara nana.
Boubacar Boris Diop, est-ce que vous pensez que le panafricanisme peut être une voie d'avenir pour l'Afrique du XXIe siècle?
Mais le panafricanisme, on en parle depuis tellement longtemps, et ça a créé un peu l'illusion. Il y a une espèce d'illusion lyrique autour du panafricanisme. Et je ne nie pas que ça ait, que ça ait des fondements. Il y a l'histoire, une histoire douloureuse d'ailleurs. Nous partageons des blessures, nous partageons des joies. Il y a la géographie. Et puis il y a ce que quelqu'un appelait le comment vouloir de vivre ensemble, hein, un philosophe sénégalais. Et puis oui. Mais je pense que aujourd'hui, être encore en train de dire l'avenir c'est le panafricanisme, mais ça veut dire que quand même quelque part on ne tient pas compte du fait que ce n'est pas très nouveau et que en plus pendant un certain nombre, pendant quand même 2 siècles, il y a eu à partir d'une même situation, des évolutions complètement différentes. D'ailleurs, à un moment donné, le président d'Ouganda, Yoweri Museveni, disait, mais lui a arrêté de parler de l'unité africaine, comme ça, de manière vague et générale. Maintenant, lui, ce qu'il proposait, c'était en quelque sorte une idée que l'on trouvait aussi de temps en temps chez Senghor, c'était l'unité africaine, mais par cercle concentrique. C'est-à-dire que, qu'à l'échelon régional, des pays se regroupent, parlent ensemble, et puis que tout ce monde se retrouve autour de l'idée d'unité africaine en général. Et c'est la raison pour laquelle je pense que, très très franchement, par rapport à toutes les questions qui sont soulevées, l'idée d'intérêt national, l'idée que telle question doit être résolue à l'échelon national, ça doit prédominer. Mais en même temps, ça n'exclut pas que l'on discute, que l'on se concerte, parce que l'idée nationale a beau être forte, il y a un rêve qui reste valable, qui reste un rêve très noble. On regarde tous dans la même direction. Et donc il y a des convergences. Il y a des convergences ponctuelles et on peut échanger sur cela. Mais ça ne veut pas dire que chacun doit diffondre son identité dans un vaste ensemble qui est là, dont on ne sait pas ce qu'il est exactement et qui empêche les uns et les autres d'agir.
Donc plutôt une union africaine qui se concrétiserait à des échelons régionaux et dans une forme de négociation permanente tournée vers l'avenir que revenir aux chimères du panafricanisme comme elles avaient pu exister il y a 30 années ou 40 années en arrière.
Tout à fait. Il faut revisiter le panafricanisme à la lueur d'évolutions historiques récentes et très très fortes.
Alors, deuxième question, et ensuite je vous en poserai une ou deux sur le... plus spécifiquement sur l'Afrique du Sud où vous vous trouvez aujourd'hui, mais une dernière question qui concerne l'ensemble du continent. On a beaucoup dit l'autre fois, on a beaucoup parlé autour de ce cinquantenaire du bilan qui était en grande partie négatif. On est là en 2010. Quels sont, selon vous, les atouts des Africains pour entrer dans le 21e siècle ? Question un peu générale, mais si vous deviez me dire... 3-4 éléments qui vous semblent être de nature à envisager l'avenir avec optimisme pour le continent africain.
Ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est-à-dire oui, que on ne peut pas envisager l'Afrique entrant d'un seul pas avec un bel ensemble dans le 21e siècle. Je suis plutôt pour une approche fragmentaire, chaque pays avec son histoire, ses atouts. L'Afrique du Sud, ce n'est pas le Gabon. Le Gabon, ce n'est pas le Tchad. Ce n'est pas le Botswana, etc. Mais je suis beaucoup plus conscient des difficultés que je ne suis capable de dire voici le chemin, voici les solutions. Il n'y a pas, je pense, de solution clé en main. Et moi, j'aimerais beaucoup, 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 vraiment, que les logiques nationales, peut-être régionales, l'emportent sur la grande messe lyrique, quoi.
Alors, j'en viens à l'Afrique du Sud, puisque d'une part, vous vous y trouvez, d'autre part, c'est présenté depuis la fin de l'apartheid, donc depuis une quinzaine d'années maintenant, comme un des pays moteurs du continent. Et surtout, c'est le pays qui doit accueillir la première Coupe du Monde qui se déroulera, depuis que la Coupe du Monde de football existe, sur le territoire africain. Alors, beaucoup de choses ont été dites et écrites sur cette première Coupe du Monde, sur cette première. Est-ce que les Sud-Africains se sentent aujourd'hui investis d'une mission qui serait aussi, en plus de celle d'organiser la Coupe du Monde, celle de prouver que le continent africain est capable, entre guillemets, d'organiser un tel événement? Et s'ils s'en sentent investis, est-ce qu'ils sentent sur leurs épaules tout le poids de cette responsabilité?
Je vais sûrement vous décevoir, car la réponse est non. Hier, oui, c'est aussi curieux que cela puisse paraître, hein. Hier, il y a eu une émission sur une des radios les plus suivies ici dans toute l'Afrique du Sud, et c'était, voilà. La Coupe du Monde, l'Afrique et nous. Et puis il y a un professeur d'université qui a pris la parole et qui a expliqué que en réalité l'Afrique du Sud ne partage pas assez dans l'optique de cette Coupe du Monde. Il a dit entre Johannesburg et Cape Town, c'est beaucoup plus long qu'entre Jobourg et Maputo et Jobourg ou Gaborone. Est-ce qu'on n'aurait pas pu partager avec les pays? Et c'était une émission interactive et les gens téléphonaient et tout le monde disait mais non, on n'en a rien à foutre, etc. Voyez. Et donc et lui il leur disait mais vous savez, vous avez la Coupe du Monde parce que tous les pays africains ont voté, tous les pays africains ont fait du lobbying, il y a eu évidemment l'effet Mandela et tout, mais vous avez été soutenu et votre responsabilité c'est de partager, c'est de comprendre que vraiment cette Coupe du Monde, les gens vont venir non pas en Afrique du Sud, mais en venant ici, ils vont se dire on vit en Afrique. Mais le problème avec, je pense, l'Afrique du Sud actuelle, et ça on ne peut s'en rendre compte que du dedans, c'est que ce pays a été longtemps isolé du reste du monde, du fait de l'odieux système d'apartheid. Eh bien, aujourd'hui que le système s'est ouvert, on sent les séquelles. Les gens ne savent pas forcément ce qui se passe dans le reste du monde. Et c'est pourquoi, et puis il y a évidemment aussi les difficultés quotidiennes. La situation est très difficile. Vous savez, l'idée que les gens ont au dehors, que l'Afrique du Sud, ouais, c'est la nation arc-en-ciel, les gens, c'est pas facile, mais tout le monde se bat pour être ensemble, etc. Là, sur le terrain, l'image est quand même un peu différente. Hein. La société reste très, très stratifiée. Le rugby, c'est pour les blancs. Le foot, c'est pour les noirs. Ça va continuer longtemps, longtemps comme ça. Et les noirs d'Afrique du Sud, je vous assure, ils ne savent pas grand-chose du reste de l'Afrique. Et il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu des émeutes xénophobes extrêmement meurtrière. Pas du tout dans le romantisme, c'est notre responsabilité, etc.
Vous, Boubacar Boris Diop, en tant qu'intellectuel écrivain africain qui venait d'une autre partie de l'Afrique et qui, je le rappelle, vivait encore dans une troisième partie de l'Afrique, puisque vous vivez généralement à Tunis, est-ce que vous, et qui vous intéressez à l'actualité de ce continent depuis des décennies, est-ce que vous considérez que l'Afrique du Sud, aujourd'hui, en accueillant pour la première fois une Coupe du Monde de football sur le territoire africain, a un devoir, en quelque sorte, un devoir de représentation?
Oui. Et vous savez, avant de venir ici, j'avais cette sorte d'inquiétude. Je me disais, mais c'est quand même très difficile à organiser une Coupe du Monde. Depuis que je suis ici, je me rends compte que, oui, et je n'ai plus cette angoisse-là, je suis sûr que cela va très bien se passer. Mais ce qui est clair, c'est que s'il y a le moindre échec, on dira, mais enfin, on le savait, voilà. C'est l'Afrique, rien ne peut marcher, comme vous le savez, la semaine dernière, il y a eu une explosion dans une centrale électrique, donc les commentaires, ça a été ça, ah oui, si on n'a pas d'électricité pendant la Coupe du Monde, lorsque les avions ont été bloqués en Europe, les gens ont dit, ah, est-ce que les personnes vont pouvoir venir. Donc oui, j'ai la conviction que si jamais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, au lieu de dire que ça peut arriver partout, non, on dira c'est la faute des Africains. Et donc, de ce point de vue-là, je souhaite de toutes mes forces que ça, oui, que ça marche.
Et si ça se passe bien, vous pensez que, un peu comme un jeu de miroir, au contraire, on dira que l'ensemble du continent tirera bénéfice ou qu'on se contentera de dire que les Sud-Africains ont su organiser une Coupe du Monde? Ou est-ce que là, ça retombera aussi, comme si ça avait été le cas s'il y avait eu des problèmes, sur l'ensemble du continent?
Non, je pense que les retombées seront positives pour le reste du continent si cela se passe bien. Mais il y aura toujours des racistes purs et durs qui sont heureusement partout une insignifiante minorité. Ça c'est clair. Hein, qui diront, ben vous savez, c'est parce que c'est l'Afrique du Sud que ça a marché. Sous-entendu, voilà, l'Afrique du Sud, c'est aussi une société, quelque part, une société blanche. Mais en gros, je suis persuadé que, voilà, si c'est négatif, on va tous écoper. Mais si c'est positif, les gens se rendront compte que les peurs qu'ils avaient, que c'était pas juste.
Étaient infondées, oui. Alors, dernière question sur l'Afrique du Sud, et là je délaisse un peu la Coupe du Monde, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Donc je le disais, ce pays est présenté comme le moteur du continent. Est-ce qu'il vous semble à mesure d'assumer ça? Il y a eu la mort là de Gene Terreblanche, le leader blanc raciste au début du mois d'avril, le 3 avril, qui a été tué dans son ranch, qui a semblé remettre un peu en lumière le fait que les tensions sociales étaient loin d'être réglées dans ce pays. Vous qui êtes maintenant depuis un peu plus d'un mois ou deux, comment vous sentez ce pays-là?
Oui. Écoutez, moi, je pose tout le temps des questions. Je suis aussi journaliste et je suis très, très intéressé par ce qui se passe. J'écoute les radios, les télés, je lis les journaux, etc. Et C'est vrai que la mort de Terre Blanche, son meurtre, les propos de Malema ont été comme une espèce de... comme si on atteignait la côte d'alerte. Et puis les gens m'ont dit, mais vous savez, on parle du Zimbabwe, mais au Zimbabwe, on a tué une dizaine de fermiers blancs. Ici, le chiffre était autour de 3700 fermiers blancs qui avaient été tués. Il me dit, bon, personne ne sait comment en parler, parce qu'on ne veut pas jeter de l'huile sur le feu. Ah, attention, de leur côté, les fermiers blancs ne se sont pas gênés du tout. Et ils ont tué beaucoup de travailleurs noirs. Et dans quelques cas même, ils les ont, tenez-vous bien, ils les ont jetés aux lions. Qui les ont dévorés. Vous comprenez? Et donc, il y a dans l'arrière-pays cette violence-là, un peu affolante, mais les gens m'ont dit, vous savez, la Coupe du Monde, c'est beaucoup d'argent pour tout le monde, pour les businessmen noirs, comme pour les businessmen blancs. Et donc, on a peur qu'il se passe quelque chose, mais ça ne peut pas être avant la Coupe du Monde. Elle aura lieu, elle se passera normalement, ça rapporte trop d'argent à trop de personnes puissantes. Et puis moi, je leur demande, mais après? Et après, évidemment, il y a la peur. Jobourg, tout le monde vit dans la peur, les gens sont barricadés, les quartiers sont fermés, les maisons sont protégées par des gens armés, etc. Mais en même temps, ce qu'ils me disent, c'est que cette société a plus de ressources qu'on ne le croit, elle a les reins solides, elle va traverser des moments difficiles, mais bon, elle ne va pas s'effondrer. Il reste que les inégalités sont hallucinantes, les gens, et c'est en général les blancs, ont un niveau de vie difficile à imaginer ailleurs. Et puis il y a bon les quartiers populaires, les gens qui vivent dans la rue, etc., la violence et tout. Et donc il y a ces contradictions là qui sont vraiment très 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 difficiles à gérer. Il faudra en sortir. Mais l'idée de nation arc-en-ciel, ça a beaucoup de chemin à faire encore. Il y a peut-être un arc-en-ciel, mais les couleurs sont assez éloignées les unes des autres, comme je dis parfois pour taquiner les copains. Voilà.
Alors là, cette fois, c'est vraiment ma dernière question et je reviens à la Coupe du Monde. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a rappelé. Moi, j'étais passé en Afrique du Sud il y a quelques années, j'avais pu le constater aussi, c'était au début des années 2000. Le foot, ça reste le sport des Noirs, le rugby, celui des Blancs. Je rajouterais que moi, à l'époque, j'avais observé que le cricket était celui des Indiens. Est-ce que ça c'est pas du tout métissé? Est-ce que c'est vraiment toujours à l'œuvre cette séparation, ce marqueur sportif qui marque aussi les...
Voilà. Dans le film Invictus, hein, c'est toujours comme ça. Mais en regardant à la télé les files d'attente, les gens qui achetaient les billets, j'ai eu la surprise très agréable de voir qu'il y avait là-dedans un nombre extrêmement important de Sud-Africains blancs.
D'accord.
Donc oui, je crois que cette idée-là, ça, c'est en train de changer. Je pense que les blancs raisonnables se disent que quand même, que cette société est la leur, qu'ils n'en ont pas d'autre, et que d'une certaine façon, renvoyer l'ascenseur à Mandela, après ce qu'il avait fait, vous savez, il avait mis le maillot des Springboks, il avait fait cette Coupe du Monde de rugby, vraiment un truc d'unité nationale, et un peu lui renvoyer l'ascenseur, c'est se sentir concerné par ça.
Et merci beaucoup, Monsieur Diop, d'avoir nous avoir accordé
tout ça. Merci à tout le monde. Hein.
Bonne continuation.
Allez,
à bientôt.
Bye, bye, bye. Bye.
C'était une interview de Boubacar Boris Diop, écrivain, réalisée par Emmanuel Riondé, journaliste, spécialiste de l'Afrique et coordinateur des pages internationales du mensuel Regard. Une interview de Boubacar Boris Diop qui a été enregistrée dans le studio de la Grenouille les 27 avril et 3 mai dernier à l'occasion de la thématique 50 ans d'indépendance africaine qui se déroule toute cette semaine sur les ondes de la Grenouille. On retrouvera dans le cadre de cette thématique politique, Emmanuel Riondet, cette fois-ci en compagnie de l'écrivain Raphaël Cranveau, autour de son livre « Que fait l'armée française en Afrique ?» ce samedi 29 mai à 10h sur les 3 minutes.